m'ont toujours renseigné beaucoup mieux sur la pléthore de ma puissance que les crédonces petites bourgeoises de la bonne santé.
Tu cherches un
Un emploi de chanteur d'opéra.
Chanteur d'opéra, c'est une belle profession et tu es intéressé par l'opéra?
Non, pas vraiment, non.
Non, par le chant, tu sais chanter?
Non plus, non.
Non, tu connais les autres tu...
Non, 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 non.
Mais qu'est-ce qu'il y a de différent dans cette galère?
Ça fait raison, mais hâtez-vous!
Il y avait des bois à l'autre promenade.
Cela est vrai, mais faites promptement, vous dites galère!
Alors, cette galère me tient au cœur.
Une histoire pas comme les autres. Une histoire qui vous sera contée en musique et par les instruments de l'orchestre.
Bonjour et bienvenue dans votre numéro du mois de mars de Scène de Vie, Vite Scène, l'émission qui prend son temps, une coproduction entre le Tangram et Principe Actif, et nous aurons une heure devant nous pour parler de spectacle vivant. Bonjour Cécile, bonjour Nathalie.
Bonjour JC.
Bonjour JC.
Alors, qu'allons-nous retrouver durant cette émission, car nous avons également des invités. Nous aurons Christian Mousseau-Fernandez avec nous.
Bonjour.
Oui, Christian Mousseau-Fernandez, directeur du Tangram, Évreux Louvier, qui est voilà. Présent à nos micros.
Il nous disait bonjour avec un micro éteint, mais
ah, pardon,
vous commencez bonjour. Avec le micro ouvert. Voilà, bonjour. Nous recevrons également Simon Falguière.
Bonjour.
Bonjour.
Bonjour Simon. Simon, vous êtes auteur, comédien, metteur en scène, et vous revenez à Évreux avec votre dernière création, le Nid de Cendres, dont nous aurons l'occasion de parler pendant toute l'émission.
Nous aurons l'occasion également de parler d'un agenda non exhaustif de ce qui nous attend au mois de mars.
Et purement objectif, ou l'inverse, purement subjectif, merci.
Clairement
beaucoup,
subjectif.
Je cherche les mots. Voilà, pour ce mois de mars, toujours riche de sorties et de découvertes.
Nous ferons un tour du côté d'une bande annonce de films.
Oui, comme toujours, pour finir notre émission, ce sera par une bande-son d'un film de notre choix, tout à fait encore subjectif.
Et puis, commençons par une autre de nos traditions, à savoir le son d'ambiance, la captation d'un moment de vie.
Qu'est-ce que t'as fait quand t'étais petite comme bêtise?
J'ai tellement fait de bêtises.
Attention.
Je m'en rappelle plus, mon pauvre lapin.
Allez, je te tiens.
C'est moi.
Qu'est-ce que vous avez fait comme bêtise quand vous étiez petit?
Comme toi, je vais faire comme toi. Alors, qu'est-ce que tu fais comme bêtise? Qu'est-ce que tu fais?
Montez sur
bêtises, les vôtres.
Ah oui, mais je voudrais savoir qu'est-ce que vous faisiez.
Quand vous étiez petit, allez.
Ouais. Ah oui, moi, je vais bien.
Oui. Bon, parce que.
Les bêtises, je ne l'ai pas fait.
Oh, bah dommage.
Mais je me casse.
Bien. Attends, on va lui demander.
Bah non, vas-y.
Attends, viens, on va lui dire.
C'est mon micro.
Matt, c'est servi.
Bon, allez, viens. Débile.
Oui, qu'est-ce que faut que je dise alors?
C'est quoi?
Qu'est-ce que t'as fait quand t'étais petit? Est-ce que t'as fait des bêtises quand t'étais petit?
Qu'est-ce que
t'as fait quand t'étais petit? Des bêtises.
Ah, des bêtises quand j'étais petite. Je montais dans les arbres. On m'appelait le gant manqué, moi.
Ok. Et à monter dans les arbres. Vous avez fait quoi comme bêtise quand vous étiez petit?
On en a fait beaucoup, tu sais.
Tu peux me le dire?
Quand j'étais petit, je voulais toujours grimper aux arbres.
Ok, quoi?
Bah, je montais dans les arbres pour me casser.
Alors, j'y sais, où sont allés traîner les micros de la radio?
Alors, c'est pas nous qui avons laissé traîner les micros comme tu l'entendais. Hein. C'est dans le cadre d'un projet avec les enfants du centre de loisirs de Claville. Ils vont régulièrement à l'EHPAD de Conches, la maison de retraite de Conches, où ils ont pris l'habitude depuis plusieurs années d'aller rencontrer les personnes âgées qui y résident. Donc, il y a des liens qui se sont créés depuis longtemps. Bien souvent, ils se retrouvent autour d'ateliers cuisine, notamment, qui est assez fédérateur, forcément, de faire de la cuisine ensemble. Et puis depuis quelques mois maintenant, nous avons initié un atelier radio là-bas où nous confions du matériel d'enregistrement aux enfants de manière quasi autonome, où ils vont questionner les personnes âgées, échanger autour de tout un tas de choses. Alors ils avaient déjà travaillé autour des expressions françaises, voilà, faire quelque chose par-dessus la jambe, mettre la charrue avant les bœufs, enfin des voilà, ces vieilles expressions que les enfants méconnaissent pour la plupart. Puis ils avaient changé là-dessus. Et là, mercredi dernier, ils étaient sur une nouvelle rencontre où ils ont décidé de parler des bêtises que les résidents ont eu l'occasion de faire. Alors cet extrait d'une minute trente excède plus d'une heure et demie de rush. Hein. On a pris un bloc dedans. On aura du joli montage à faire pour la diffusion, mais c'est toujours très riche. Voilà ces échanges.
Moi, j'avais une petite question encore sur comment ils décident les thématiques qu'ils vont aborder avec les résidents de l'EHPAD. Est-ce que c'est vous, l'équipe radio, qui les guidez ou...
Alors oui, on les guide un petit peu parce que finalement, les enfants, ce sont des enfants entre... Alors, le plus jeune a 3 ans. Bon, alors, il va pas chercher beaucoup de matière, mais bon, il participe avec les autres à écouter notamment ce qu'on enregistre, à se poser des questions, voilà. Jusqu'à... je crois que les plus vieux ont 11-12 ans. Donc, eux, ils s'occupent plus de la partie technique et montage, parce que ce sont les enfants aussi qui procèdent au montage. Ce qui est assez long, on les guide. Du coup, voilà, sur les thématiques, on les guide un petit peu tout de même. On fait émerger, en tout cas, des réflexions. On essaie de guider leurs réflexions. On essaie de pas intervenir et d'imposer de thèmes, mais bah voilà, faut les aider quand même hein, pour trouver tout ça.
Merci, JC.
Et ben voilà, c'est une belle expérience qu'on retrouvera sur notre antenne à l'écoute un peu plus tard. Je pense d'ici un mois maintenant, parce qu'il faut le temps du montage et le temps du collectage aussi. Voilà. Donc d'ici un mois, il y aura une production autour de tout ce que les enfants ont capté. Bah non, c'est pas ça que je voulais. Hein.
Une petite virgule peut-être.
Ouais.
Ah ben une virgule alors. Et on avait prévu aussi tout un tas de musique dans cette émission, notamment des choix de Cécile. Pour une fois, nous les diffuserons.
Voilà, une fois n'est pas coutume. On débute l'émission tranquillement, en prenant un peu de hauteur. On va prendre le... C'est une émission qui prend son temps, scène de vie, vie de scène. Donc, on va prendre le temps de prendre un peu de hauteur, un peu de recul. Et puis, on va se laisser bercer par la voix d'Otis Redding.
Sitting in the morning sun, I'll be sitting when the evening comes, watching the ships roll in, and then I'll watch them roll away again. Yeah, I'm sitting on the dock of the bay, watching the tide roll away. Sitting on the dock of the bay, wasting time. I left my home in Georgia, headed for the Frisco Bay. 'Cause I've had nothing to live for, and look like nothing's gonna come my way. So I'm just gonna sit on the dock of the bay, watching the tide roll away. Ooh, I'm sitting on the dock of the bay, wasting time. Look like nothing's gonna change, everything still remains the same. Here resting my bones, and this loneliness won't leave me alone. This 2,000 miles I roam just to make this dock my home. Now I'm just gonna sit at the dock of a bay, watching the tide roll away. Ooh,
and sitting on a darker bay, wasting time.
Otis Redding avec Sittin' On. Un grand classique, Cécile.
The Dock of the Bay.
Oui, alors ça, c'est en... Oui. En fait, il y a deux titres à ce, ouais, à ce titre-là, voilà. En fait.
Parce que moi, je l'avais en entier.
Parce qu'en fait, c'est... Ah non, c'est l'un ou l'autre, en fait. Ah, moi, dans les sources que j'ai, c'est Sittin' On,
okay.
Ou alors The Dock of the Bay.
Eh bien, il y a la version longue et la version courte.
Enfin, Otis Redding. Quoi.
Otis Redding, exactement. Cécile.
Nous accueillons, nous l'avons dit tout à l'heure, sur ce plateau, Christian Mousseau-Fernandez. Bonjour Christian.
Rebonjour. Bonjour.
Vous êtes le directeur du Tangram. C'est un mois un peu particulier au Tangram, puisque dans quelques jours maintenant, nous allons accueillir un événement que vous avez intitulé Les Épopées Théâtrales, avec deux programmations spécifiques qui sont tous des oiseaux de Wajdi Mouawad et le Nid de Cendre de Simon Falguière, qui est avec nous aussi au micro. Avant de parler plus précisément de cet événement, j'avais envie de eh ben on va commencer direct avec une question un petit peu provocatrice.
Vas-y,
voilà, mais j'y vais, je me lance et envie de vous demander, ben, à quoi sert un directeur de théâtre?
Ça sert à faire des bêtises.
Mais des bêtises réfléchies ou pas réfléchies?
Oh, bêtises souvent, elles sont les deux à la fois. Non, mais plus sérieusement, j'aime pas trop, de toute façon, répondre à la question de l'utilité ou pas. Je sais pas, c'est comme si je devais répondre à quoi sert l'art. J'ai beaucoup de mal à répondre à cette question-là. Maintenant, je pense qu'en tout cas, ce que doit essayer de faire un directeur d'un théâtre, je pense, c'est d'être à l'écoute de beaucoup de choses. Et sans doute, la première des choses, c'est d'être à l'écoute des artistes, justement, pour faire la liaison avec les discussions qu'on va avoir après. Les artistes, l'état de la création artistique, voilà, sur notre territoire, alors en proximité ou à l'échelle nationale voire internationale, et puis c'est être à l'écoute d'un territoire local et notamment de toutes celles et ceux qui y vivent ou qui le font vivre. On est à la croisée de ces deux choses-là, en fait. Et s'il y a une utilité, enfin, à la fonction de directeur, c'est de veiller à ce que on soit sans cesse avec des oreilles grandes ouvertes. Quand je dis on, c'est toute l'équipe évidemment du Tangram pour ce qui me concerne, et pour être à la fois sans doute au maximum en phase avec ce qui se joue, ce qui se pense et ce qui s'agit au sens de l'action du terme, à la fois côté territorial mais aussi côté artistique et culturel.
Oui, vous êtes un être vivant en fait, dans avec une mission artistique et culturelle sur un territoire bien précis. Et dans ce cadre-là, le premier effet visible, je dirais, de ce grand bateau, c'est avant tout les spectacles que le public, que les habitants, que les gens peuvent venir voir, découvrir ou apprendre à connaître. Et ça s'élabore avec des idées quand même en tête, des volontés précises de la manière dont on veut aller présenter, rencontrer, se faire rencontrer les habitants et les artistes. Voilà, comment, en tant que directeur, on vient avec quelle idée de... Et comment on va s'opérer cette rencontre-là? on a quand même des choses en tête.
Oui, c'est vrai. Après, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est souvent des choses qui maturent dans nos têtes de façon très parfois un peu inattendue. Et parfois de façon hyper réfléchie et très très volontariste. Ce que je veux dire par là, c'est que faut accepter d'être je pense côté artistique par exemple d'être extrêmement ouvert et prêt à être bousculé par ce qu'on découvre, mais ça vous savez tout programmateur et en ce qu'on appelle en repérage artistique très 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 en amont et moi je me surprends toujours à penser que j'ai oublié les trois quarts des spectacles que j'ai vus, sachant qu'on en voit à peu près une centaine par an. Et puis en fait non, il y a des moments, il y a des connexions qui se font. Alors ces connexions là elle s'opère à des moments où effectivement on a une volonté. Nous, quand je dis nous, c'est le programmateur, mais aussi au regard des retours de l'équipe, etc. Et c'est vrai que si je prends l'exemple par exemple des épopées théâtrales telles que j'ai souhaité qu'elles soient mises en place sur une même semaine. Je découvre tous ces oiseaux il y a un an et demi maintenant. C'est un vrai coup de cœur. Bon, voilà. Même si je sens que ça nécessite une exigence de la part du spectateur, etc. Mais bref, en tout cas sur le contenu, ça rejoint en tout cas des préoccupations qui sont les miennes sur un regard sur le monde, mais aussi sur une approche du théâtre. Qui me correspondent, où je sens que je vais être très très vite en capacité de pouvoir défendre ça de façon très forte. Et puis depuis bien avant, 2 ans avant, j'ai une première rencontre avec un certain Simon Falguière qui vient me présenter un truc de dingue avec où il me demande de passer 10 heures de mon temps à lire un pavé énorme et et puis il y a une rencontre qui se fait à ce moment-là. Je ne sais pas du tout ce qui va se passer après. Je lis ce document, etc. Je décide d'accompagner Simon, mais je ne sais pas du tout à ce moment-là que il y a une connexion qui va se faire entre deux propositions artistiques, l'une Tous les oiseaux dont je viens de parler et Nitsand qui est la création de Simon qui va être présentée au moment de ces épopées là. Je sais pas ça. Et l'année dernière, à un moment donné, au moment où se pose la question vraiment de la question de la programmation, etc., la connexion se fait. Elle se fait dans ma tête. J'échange aussi avec Simon sur cette question-là parce que faut quand même reconnaître que ces 3 rendez-vous théâtraux sur la semaine sur des jauges très importantes, c'est pas rien. Ça va faire événement sur la ville, ça doit le faire, etc. Et il faut aussi avoir là aussi ouvrir un peu les écoutilles au-delà des convictions fortes qu'on peut avoir et d'échanger. Et c'est comme ça que les choses se croisent. Et finalement, encore une fois, toi, c'est 3 ans en arrière pour l'un et 1 an et demi pour l'autre.
Ce qui amène quand même à proposer, et vous l'évoquiez il y a quelques secondes, ce qui amène à proposer des formes qui demandent, alors vous dites exigence du spectateur, mais j'ai envie de dire aussi un effort du spectateur. Ce sont des formes particulières. Là, on parle de pièces qui sont sur des durées de 4 et 5 heures. On est sur des récits. On est quand même sur des formes qui sont peut-être à appréhender moins évidentes que par exemple ce qui est proposé sur les petites scènes ou sur d'autres types de programmation. Et là, on fait appel quand même, j'ai envie de dire presque, à l'effort du spectateur, non ? Ou en tout cas, on va l'amener sur d'autres terrains ?
On va l'emmener sur un autre terrain. Je dis tout le temps que on fait l'expérience d'être spectateur. Donc, c'est à chaque fois une expérience, même pour celui qui a déjà vu des dizaines et des dizaines de spectacles. Là, évidemment, nous, est-ce qu'on, c'est un des critères qui a participé de ce choix-là, c'est de se dire, mais vous avez l'occasion de faire l'expérience, une expérience unique, en fait, à plusieurs titres. La première, c'est effectivement la question de la durée. que ce soit dans la durée, dans la semaine, parce que deux rendez-vous dans la semaine, et en plus ces rendez-vous-là, ils sont relativement longs. Mais ils ont été pensés comme ça. Et ils ont été pensés aussi parce que et Wajdi Mouawad et Simon Falguer pensent à l'adresse au spectateur. Et c'est pas balancé comme ça parce qu'on se dit qu'on va se faire une espèce de challenge, on va se faire 5 heures de théâtre, super. Non, c'est pas ça du tout.
Ce qui ne présenterait aucun intérêt en soi.
Si, peut-être pour les amoureux du théâtre, mais pour l'écoute de la langue. Mais la question de comment ça s'articule avec le projet artistique lui-même, et en particulier, mais ça on y reviendra je pense tout à l'heure, sur la question de la langue, je trouve que ces deux propositions-là, elles sont extrêmement proches, parce que justement, elles permettent d'aller découvrir une langue dans un théâtre qui est à la fois narratif, mais aussi avec ses parts de, oui, une espèce de lyrisme aussi, pas tout le temps, mais qui est là, qui est bien présent, et qui fait que la notion de l'épopée, elle trouve son sens à cet endroit-là. Il y a l'épopée des personnages, et je sais que Simon utilise déjà ce terme-là, rien que pour ce qu'il est en train d'écrire lui-même. Mais nous, la semaine en elle-même, c'en est une aussi pour ça. Parce que finalement, le spectateur qui va voir ces deux spectacles-là, eh ben, il va participer lui-même de sa propre épopée.
Ça demande du coup beaucoup d'écoute, on l'a dit, une certaine intuition aussi, parce que finalement, quand on remonte 3 ans en arrière, ou 1 an et demi en arrière, il y a effectivement, on sent qu'il y a quelque chose qui se passe pour vous à votre endroit de programmateur, mais aussi d'être humain. Enfin, ce qu'on disait précédemment, tout ça, c'est presque intuitif. Donc, ça veut dire que vous faites le pari à un moment que ça va matcher, et puis ou pas d'ailleurs. Et il y a quand même cette notion de dire bah voilà, il faut qu'on fasse événement, il faut qu'on le partage, il faut du coup comment on partage ce sentiment, cette intuition avec une communauté, avec un ensemble, avec un territoire.
Parce qu'au moment où on le fait, c'est plus intuitif. Ça y est, c'est acté. Donc on le défend et on met en exergue ce qui n'était qu'une intuition au départ et qui nous semble quelque chose de plus objectif aujourd'hui. Même si ces arguments-là, pour une part, ils peuvent être très concrets. J'en ai énoncé quelques-uns tout à l'heure, mais pour moi, là, peut-être fondamentalement, le fait d'avoir mis en vis-à-vis et Wajdi Mouawad et Simon, c'est peut-être la beauté qu'il porte sur le monde, voilà. Mais ça, c'est pas concret du tout. Mais ça, si les gens pouvaient rencontrer ça au terme de la semaine, moi ça m'irait super bien. C'est un enjeu de regard, mais ça comme toujours au théâtre. Après, à nous de faire en sorte effectivement de que la rencontre ait lieu. Voilà, c'est. Mais ça, j'ai envie de dire que elle sera de toute façon sur les quelques 1500 personnes qui vont venir dans la semaine, elle sera spécifique à chacun. Mais oui, il y a de l'intuition. Enfin, notre métier n'est fait que d'intuition. Ouais.
Quand vous parliez justement qu'à un moment après, il y a aussi favorisé cette rencontre. Bon, voilà, vous avez ce projet, cette intuition qui se construit, qui se concrétise après et qui se met en œuvre. Et ce cheminement-là, il doit aussi être ressenti après par le spectateur, l'habitant, qu'il ait ce cheminement, ce parcours. Et là encore, ça passe par des mots, des paroles, des échanges, des rencontres qui vont accompagner parler très vite le pourquoi, enfin, et la pertinence de ça.
Et c'est là où la forme choisie par les deux artistes est importante. C'est-à-dire que, comme on l'évoquait tout à l'heure, ça va, si je viens qu'à une seule des soirées, c'est déjà une expérience en soi. Et que, je dis souvent, le théâtre, c'est une rencontre, bien sûr, artistique, mais c'est aussi une rencontre sociale et socialisante. Et là, il y a un entracte sur les deux soirées. Moi, je veux que ces gens discutent entre eux, enfin, échangent sur ce qu'ils ressentent, ce qu'ils vont découvrir. On est dans un mode de consommation culturelle, on le sait tous, où l'accélération du temps fait qu'on a beaucoup de mal dans nos théâtres aujourd'hui à dire aux gens, mais en sortant, prenez le temps de sortir, prenez ce temps-là. Là, il se trouve que les artistes ont fait le choix d'avoir deux parties, en gros, dans leur spectacle. Donc, de toute façon, il y a quelque chose qui va s'imposer un petit peu aux spectateurs.
Ils le prennent, là, du coup, le temps.
Ils vont le prendre. De fait, ils vont être obligés de le prendre, entre guillemets. Après, comment est-ce qu'ils vont recevoir autant que moi j'ai pu recevoir le spectacle, je n'en sais rien du tout, mais ce qui est sûr, et c'est peut-être ça qui est intéressant, c'est de se dire là vous avez il y a quelque chose un peu extraordinaire dans le fait de venir et de participer. Parce que c'est un engagement, peut-être plus encore que d'habitude, et que ne serait-ce que par le fait d'avoir vécu cette expérience-là, même si en sortant, je me dis ouais, en fait, je les ai sentis les 5 heures là, mais j'ai participé de ça, et je vais pouvoir échanger avec les autres sur cette expérience-là, qui encore une fois est sortie de l'ordinaire, et donc, quelque part, j'ai déjà quelque chose de commun avec les autres.
On parle de la durée, là, depuis tout à l'heure. Moi, je vous propose qu'on se fasse une petite pause musicale et puis qu'on rentre vraiment dans le sujet et dans le contenu de ces 5 heures de théâtre.
Sur justement la pause musicale, la toute première, la seconde en fait de cette émission, c'est vous, Christian, qui nous l'avez ramené. Je vous propose que vous nous présentiez laquelle vous voulez commencer, laquelle voulez-vous nous présenter. Vous aviez ramené Pierre Lapointe et Angèle.
On va commencer par Pierre Lapointe. Pierre Lapointe est un artiste québécois qui fait de la chanson à texte. Et cette chanson, elle raconte la fragilité du bonheur. Et je trouvais que ça fait bien écho à ces deux pièces qui vont être données la semaine prochaine. Fragilité de l'humanité aussi, beaucoup. Et est-ce qu'on a le droit de s'interdire des choses ou pas?
Les animaux que nous sommes restent faibles et éphémères. En nous, cette idée résonne qu'il est honte d'être humain. Toutes les étoiles se moquent de nous. Plus elles brillent, plus on a mal. Qu'il est honte d'être humain. On s'accroche à un amour pour tromper nos solitudes, mais le bonheur reste sourd. Qu'il est honte d'être humain. Et les nuages viennent nous gaver de larmes et de mirages. Qu'il est honte d'être humain. Parfois une jolie joie, un moment de douce folie, puis elle revient cette voix. Qu'il est honte d'être humain. Et quand la terre tremble sous nos pieds, c'est qu'elle crie pour nous faire taire. Qu'il est honte d'être humain. On cherche les yeux fermés, les arbres de notre enfance. On peut lire sur nos fronts ridés. Qu'il est honte d'être humain. Nos aïeux qui dorment dans
Voilà.
Ah oui, d'accord, voilà. Voilà.
Je prenais le rebond, en fait.
Très
j'avais
bien.
Compris que c'était à moi de prendre le rebond.
Oui, bon, on peut, hein, on peut. C'était Pierre Lapointe, qu'il est honteux d'être humain.
Voilà, donc nous sommes toujours en direct sur Scène de vie, vite scène, notre émission qui prend le temps. Nous sommes avec Simon Falguière, auteur, acteur, comédien, metteur en scène. Et bonjour Simon.
Rebonjour.
Rebonjour. Et Christian Mousseau-Fernandez, directeur du Tangramme. Alors voilà, en rebond sur notre premier plateau, j'avais envie de m'adresser à vous, Simon Falguière, par rapport à ce que Christian Mousseau-Fernandez expliquait de créer cette aventure entre deux metteurs en scène qui ont une vision du monde poétique et de se mettre en relation. Enfin, voilà, vous, en tant qu'auteur, metteur en scène, avez-vous perçu, vécu, pris cette proposition de Christian Mousseau-Fernandez, de jouer cet aller-retour?
Bah, je l'ai pris avec une très grande joie, et puis une grande joie aussi de découvrir. C'est toujours très heureux de découvrir l'audace d'un directeur, puisque présenter deux spectacles de cette envergure-là, de cette durée-là, sur une même semaine, c'est une audace déjà. J'avais fait une création aussi ici la saison dernière autour du Petit Poussé, et Christian avait programmé trois Petits Poussés, c'était une audace aussi. Et ce sont des choses assez rares et très... Voilà, déjà, il y a cette joie-là de participer à une audace. Et ensuite, et aussi par rapport, pour rebondir sur ce que disait Christian, je crois qu'il y a une chose où on se retrouve, Wajdi et moi-même, je dis Wajdi parce qu'on se connaît un petit peu, c'est que nous racontons tous les deux des histoires. Et je crois que ça, c'est la première chose très importante. C'est-à-dire que on a le souhait, l'un et l'autre, de ramener la fable et l'histoire au cœur du théâtre. Ce qui n'a pas été toujours le cas. Et on dit même que c'est peut-être la chose essentielle. Et que c'est aussi cela qui permettra une forme de communion avec le public, de ramener l'histoire au cœur. Moi, c'est d'autant plus émouvant pour moi. Il y a beaucoup de choses émouvantes pour moi avec cette date à Évreux, puisque je suis né à Évreux, j'ai grandi dans ce théâtre d'Évreux toute mon enfance, et je reviens avec un spectacle de cette envergure-là, donc c'est très bouleversant, on peut dire le mot. Et il y a une deuxième chose qui me bouleverse, c'est que Wajdi Mouawad, quand je suis allé à Paris pour faire mes études théâtrales avec mes 18 ans sur l'épaule, Wajdi Mouawad, je le découvre au Théâtre Malakoff, Théâtre 71, et on le découvrait tous, et il montait sa trilogie Littoral, Incendie et Forêt. Et il ramenait justement dans le paysage théâtral l'histoire au cœur. Et les salles étaient remplies de jeunes, dont je faisais partie, et nous finissions tous debout à la fin des représentations, donc ça a été un choc de spectateurs pour moi, et qui m'a d'ailleurs très certainement influencé à des endroits d'auteurs et de metteurs en scène, du moins, et toute une génération, je pense, dans cette volonté de réécrire des histoires. Et voilà, je crois, voilà, tout ce que ça m'inspire, cette réunion en une semaine de Wajdi Mouawad et de mon travail, même si après, évidemment, il y a des différences, et heureusement. Il y a une autre petite chose qui est touchante dans le rapprochement de ces deux œuvres, c'est qu'il y a une personne qui a travaillé sur ces deux spectacles. C'est Emmanuel Clolus, qui est scénographe et qui a fait la scénographie du spectacle de Wajdi. D'ailleurs, c'est amusant parce que on s'était retrouvés par hasard, Christian, tous les deux à la représentation de Tous des oiseaux. Par hasard, on était assis.
Des connexions, là.
Voilà.
Des connexions. Il n'y a pas de hasard.
et je découvre le Trailman Clus à ce moment-là. Enfin, voilà. Et il a fait les deux scénographies des deux spectacles. Donc, en plus, on peut même venir voir comment un scénographe travaille avec deux artistes différents sur deux thèmes différents. Justement, le nid de cendre, c'est aussi toute une, enfin c'est beaucoup de comédiens sur le plateau. C'est une quinzaine, ouais, si je dis pas de bêtises.
Oui, c'est ça. C'est ce qu'on appelle une œuvre un peu folle.
C'est ça que je voulais souligner. Vous parliez l'audace du programmateur tout à l'heure, mais il y a aussi l'audace du metteur en scène,
bien sûr,
à proposer quand même un format long. Vous l'avez souligné, 5 heures de représentation, mais aussi 15 comédiens sur le plateau. C'est loin d'être anodin quand on connaît en plus la réalité aujourd'hui de pouvoir produire un spectacle et les coûts que ça engendre, enfin toutes ces logistiques qui sont derrière. C'est aussi une audace au bout d'un moment de mettre 15 comédiens sur le plateau sur ce type de représentation.
Oui, mais alors c'est toujours pareil. L'audace du metteur en scène ne peut pas exister sans l'audace du directeur, et l'audace du directeur ne peut pas exister sans l'audace du metteur en scène. C'est-à-dire
c'est
que
la poule qui fait.
Voilà. Ouais, enfin, il faut qu'elle se rencontre.
Hein. Il faut qu'elle se rencontre. Mais c'est là où Christian pour moi a été très important. Après j'arrête, hein, Christian, promis. Hein. Mais Christian était très important puisque c'est le premier directeur qui a lu la pièce. Et il faut à l'époque fallait. C'est-à-dire que j'arrive avec 400 pages de texte et je ne pense pas du tout qu'un directeur va me rappeler en me disant je les ai lus. et ça a été le cas, et c'était la première étincelle qui a permis que cette production existe. Alors en effet, c'est une production hors norme d'un point de vue des chiffres et puis aussi de ma jeunesse puisque je viens d'avoir 30 ans, donc réunir tant de partenaires autour de ce spectacle-là, c'était, pour être très franc, il y a encore 2 ans, je pensais que je n'y arriverais pas. Et il y a 16 comédiens au plateau, nous sommes 24 en tournée. Au sommet de la création, nous étions une quarantaine dans le théâtre. Ça dure 5 heures, 2 parties de 2h30. Et il a fallu convaincre tout un petit monde pour pouvoir faire en sorte que cette aventure existe. Après, je pense que les gens aussi ont faim d'aventure.
Et d'histoire.
Donc oui, c'est une audace. Et c'est une audace qui est née de la rencontre d'une jeune troupe d'acteurs exceptionnels qui sont rentrés pour la plupart en école nationale, au Conservatoire National de Paris, au Théâtre National de Toulouse et à l'École du Nord à Lille. Je dis ça parce que c'est quelque chose de très important pour moi. Je pense que je n'aurais jamais pu écrire cette pièce sans eux.
Oui, c'est ça. Il y a une notion, évidemment, quand on écrit une pièce à 16 comédiens, il y a quand même un aller-retour qui doit se faire forcément par rapport à la troupe, j'imagine.
Bien sûr. Et je crois que, moi je dis souvent ça, je crois que la transcendance existe parce que les autres sont là. On n'écrit pas une épopée théâtrale tout seul dans sa chambre. Enfin, si, au final, on l'écrit tout seul dans sa chambre. Mais ça n'empêche que elle peut prendre corps. C'est très mystérieux. Là, je vous parle de quelque chose de très mystérieux. Mais elle peut prendre corps que parce que les acteurs sont là dans notre tête, ou du moins, ce que je veux dire par là, c'est que chaque page écrite du Nid de Cendre, je m'y attelais en me disant ils vont la lire. Donc c'est une histoire d'amour, voilà. Et chaque page est écrite en se disant ils vont la lire. J'espère que ça va leur plaire. Mais c'est vrai. Et aussi chaque parole, chaque rôle est écrit avec la voix de l'acteur dans l'oreille. Alors je suis pas quelqu'un qui écrit au plateau. Je fais pas d'écriture de plateau, ce que fait Wajdi à l'inverse. Moi j'écris avant.
Sur tous ces oiseaux. Hein. Sur tous ces oiseaux, il a écrit avant.
Oui, il a écrit avant, mais après, j'en ai quand même rediscuté avec lui et il a beaucoup, beaucoup retouché. Après, moi, j'ai beaucoup coupé, par contre. Ouais. Mais...
c'est une forme de retouche. Hein.
Ce qui est une forme de retouche, parfois très douloureuse, mais essentielle. Et donc je l'écris voilà avec la voix des acteurs, et puis comme je suis acteur moi-même, j'ai un rapport à l'écriture qui est un rapport oral, c'est-à-dire que j'écris tout le temps à voix haute. J'ai besoin que les mots passent par la bouche pour qu'ensuite ils puissent être donnés aux acteurs. J'ai l'impression plus d'être un auteur poète chef de troupe qu'un metteur en scène. Je sais pas comment expliquer ça, mais d'être vraiment un acteur parmi d'autres acteurs qui va écrire pour d'autres acteurs pour que l'histoire existe.
C'est d'ailleurs ce qui se passe dans la... Pardon, les filles.
C'est ça le but.
C'est d'ailleurs ce qui se passe dans la pièce que tu as écrite, d'ailleurs. Enfin, par rapport à la troupe. Peut-être faut dire quelques mots, justement, parce que l'autre audace, elle est purement théâtrale, pas sur la mise en scène, mais sur l'écriture, sur le texte et sur la dramaturgie. Peut-être dire dans les grandes lignes, parce que effectivement il y a beaucoup de personnages, parce que il y a une histoire qui se déroule qui est pas dans un monde unique, dans un temps unique, loin de là. Et peut-être tu peux en dire quelques mots, parce que l'audace elle est aussi à cet endroit là je crois.
Oui, complètement. L'idée c'est que quand on est jeune auteur metteur en scène et puis une jeune troupe, on veut parler du monde et de notre monde, évidemment. Mais moi je ne voulais pas en parler dans une forme de naturalisme et dans une forme je trouve qu'on est tellement envahi par l'actualité tout le temps que je ne voulais pas que l'actualité se réinvite dans mon théâtre, mais j'avais envie, par le prisme d'un conte et d'une théâtralité et d'une dramaturgie, quand même de parler de ce déchirement de l'histoire auquel nous assistons, notre génération. Je dis déchirement de l'histoire d'autant plus que j'ai 30 ans et que nous avons grandi, pardon je fais un peu des déviations, mais nous avons grandi, nous, dans le rêve de l'Europe. Je me souviens chanter l'hymne européen en école primaire. Moi, quand j'ai 12 ans, l'euro arrive. Enfin, on y croyait follement. Je dis pas que ça ne va pas marcher, mais c'est quand même assez compliqué en ce moment. Et donc, je voulais parler de ça. Et l'histoire, je vais essayer de la pitcher. C'est pas facile, hein. Mais l'histoire parle donc de deux mondes, un monde qui ressemblerait au nôtre et qu'on appelle Occident, où les machines de la finance se détraquent. Je commence à écrire la pièce vers 2012, où on avait vécu la crise, etc.
2008, après.
Les machines de la finance se détraquent, tous les ordres de valeur sont inversés, il n'y a plus de travail pour personne, et le peuple décide de passer l'Occident par le feu. Il n'y a pas de chef. Enfin, tout ça, c'est a pris aussi une résonance avec les gilets jaunes, tout à fait étonnant. Alors que ça a été écrit il y a plus de 3 ans. Et il y a un grand incendie qui se déclare dans ce continent rêvé. Et on suit un couple de classe moyenne avec un nourrisson qui s'appelle Gabriel. Dans ce monde en flammes, ils vont abandonner leur nourrisson au pied d'une roulotte de comédien. Ça, c'est le début de l'histoire. Et ce nourrisson est très important puisqu'on va le suivre pendant 20 ans et que c'est le héros de l'épopée. Et ça, c'est le premier monde. Il y a un deuxième monde qui est un monde de contes avec un roi, une reine, des princes et une princesse. Et la reine, de ce côté-là du monde, se meurt comme l'Occident se meurt. Le roi fait un rêve et dans son rêve, il voit que de l'autre côté du monde, un jeune homme pourra sauver son royaume. Et ce jeune homme, c'est le héros Gabriel qu'on a abandonné. Et la princesse Anne et Gabriel vont entreprendre l'un et l'autre des odyssées. La princesse Anne traverse les mers, tombe dans les enfers, traverse les enfers, rencontre dans les enfers Shakespeare, Homère, Sophocle. Et elle va se retrouver dans les cendres de l'Occident. Et de leur réunion et de leur histoire d'amour, ils vont sauver les deux mondes en péril. Voilà.
C'est toi qui arrives super bien.
Voilà, parfait. Il y a quand même, du coup, vous nous avez dit ce texte, je commence à l'écrire en 2007, 2008, non, 2012, pardon, autant pour moi.
2013.
J'ai envie de dire à quel moment on se décide de l'arrêter, enfin, comment on sait qu'à un moment c'est fini, que ça s'arrête là, en tout cas pour l'instant, pour ces deux parties-là. Comment on se dit, ok, là, j'arrête. Et maintenant, on passe l'épreuve du plateau.
Alors, en fait, c'est une histoire qui est assez longue, parce que je commence à écrire au départ une première pièce pour deux comédiennes, qui est une pièce qui maintenant est au centre de l'épopée, et dans laquelle il y a déjà tous les tenants et aboutissants de tout le reste de l'épopée. Et je voulais écrire une épopée avant ça, mais je n'y arrivais pas. C'est là où je dis que les autres permettent la transcendance. C'est que je n'y arrivais pas, ou du moins j'écrivais beaucoup d'épopées qui faisaient 30 pages, quoi, les 30 premières pages, et puis après, bah, ça s'arrêtait. Mais là, grâce à eux, j'y arrive. Et ce qui est très amusant en plus, c'est que comme ça dure 4 ans d'écriture, moi je grandis pendant 4 ans, et les pièces bougent aussi. Et même mon style bouge, ma langue bouge. Et je disais ça à un moment à la troupe quand on a joué les premières. Il y a des scènes qui, pour moi maintenant, sont peut-être les plus belles, que je n'oserais plus écrire. Qui ont été écrites il y a 4 ans, mais je pourrais plus les écrire maintenant. Parce que j'aurais pas l'audace, justement, d'oser des choses pareilles. Pardon, la question c'était si j'ai fait un détour.
C'était parfait, non, mais
comment on s'arrête?
Comment on s'arrête? Voilà, à quel moment on décide que.
Et donc voilà.
Voilà, on met un point final. En tout cas, pour l'instant.
C'est ça. Et en fait, ça va avec l'histoire de cette aventure. C'est que je commence à écrire cette épopée, on monte une première maquette de 3 heures à l'école, et puis ensuite tous mes acteurs partent en école nationale. Et c'est la Bérésina, je me dis, mais je ne vais jamais pouvoir le monter puisqu'ils sont enfermés 3 ans dans les écoles nationales. Et cette œuvre me tient tellement à cœur que je leur dis, écoutez, je ne veux pas qu'on se perde, et pour ne pas nous perdre, je vous propose qu'on aille dans un jardin en Charente, et dans ce jardin on va monter un tréteau de bois, on n'avait pas une thune, hein, juste un tréteau de bois, on va récupérer des costumes de ci, de là, et on va bosser pendant un mois chaque été, et on va monter notre acte théâtral rêvé et utopique, parce que c'est aussi une affaire humaine. Voilà, et on l'a fait, 2 étés de suite. On a monté le premier été 4 heures de spectacle, le deuxième été 6 heures de spectacle. Le public venait de plus en plus nombreux et on vivait en communauté totale. On dormait tous ensemble, on répétait de 8 heures à minuit, on faisait la bouffe tous ensemble, enfin voilà. Et je crois que ça fait partie de mes plus beaux instants de théâtre de ma vie. Parce que ce sont des instants. Je dis toujours ça, pour moi ça explique aussi ce qu'est cette troupe. Il y a 6 couples dans la troupe.
Voilà,
c'est une aventure humaine. Et on passe par cette épreuve du tréteau et du pas d'argent. Et puis, moi, je me bats comme un acharné pour essayer d'avoir une production. À un moment, je suis à 2 doigts de baisser les bras. L'acteur John Arnold, qui est, on en parlera sûrement après, me prend par le bras et me dit, Simon, le dernier reste debout gagne. J'entends cette phrase, je continue la recherche de production, on y arrive, et là, je me dis, il faut monter de ce que j'ai écrit une première pièce qui se clôt, qui se finit, qui dure donc 5 heures. Pour vous dire, au début des répétitions, avant la création, on était à 8 heures de spectacle, donc on a coupé 3 heures. Et je me dis, maintenant, il faut réadapter pour les salles noires. Et il faut faire le deuil du tréteau. Et je me dis, ça se trouve, on va y arriver. Ça se trouve, on n'y arrivera pas. Et je crois que c'est une réussite.
Alors, on va poursuivre justement l'histoire de la création du Nid de Cendres. Juste après une petite pause musicale.
Christian, vous étiez venu avec une deuxième proposition. Là, c'est Angèle, hein, du coup.
Oui, ben là, il n'y a plus besoin de présenter, je pense. Avec quand même un choix aussi de Balance-t-on quoi. Voilà, j'y fais écho à une actualité. Je trouve qu'elle le fait avec beaucoup de sensibilité et de façon très juste sur un combat féministe auquel je souscris totalement.
On parle tous comme des animaux de toutes les chaînes, ça parle mal. 2018, je sais pas ce qu'il te faut, mais je suis plus qu'un animal. J'ai vu que le rap est à la mode et qu'il mange mieux quand il est sale. Bah faudrait peut-être casser les codes d'une fille qui l'ouvre, ce serait normal. Balance ton quoi. Même si tu parles mal des filles, je sais qu'au fond t'as compris. Balance ton quoi, un jour peut-être ça changera. Balance ton quoi. Donc laisse-moi te chanter. Parler de faire en moi je passerai pas. Pour une fille belle, t'es pas si bête. Pour une fille drôle, t'es pas si laide. Tes parents et ton frère, ça aide. Oh, tu parles de moi, c'est quoi ton problème? J'écris rien que pour toi, le plus beau des poèmes. Laisse-moi te chanter. Un jour peut-être ça changera. Y'a plus de respect dans la rue. Tu sais très bien quand t'abuses. Balance ton quoi. Balance ton quoi. Laisse-moi te chanter. Allez te faire en moi je passerai pas à la radio. Parce que mes mots sont pas très beaux.
Quoi, c'est Angèle, une proposition musicale de Christian. Nous sommes toujours en plateau avec Simon Falguière et puis Christian Mousseau-Fernandez. Et ça se passe bien. Voilà. Je sais pas comment dire. Non, mais ça se passe bien. Non, mais on discute depuis tout à l'heure. On se laisse Simon tout à l'heure signaler qu'il slalomait dans, par rapport aux questions posées à travers ses réponses. Mais finalement, c'est voilà. On se laisse emmener dans ces zigzags. Finalement, ce serait bien triste de répondre directement aux questions. Christian non plus répondait pas de manière directe aux questions. Il zigzaguait aussi. Et finalement, laissons-nous emmener sur le chemin des réponses. Mais non, mais c'est, pourquoi vouloir répondre très rapidement?
C'est vrai. Alors, moi, je vais revenir.
D'ailleurs, même pourquoi répondre à nos questions?
C'est vrai. Et bah, si,
et pourquoi
si,
les poser aussi,
pourquoi, voilà, mais moi, tant pis, je les pose et je reviens un peu plus concrètement à nos épopées, à ces rencontres avec ces deux monuments. Parce que, voilà, je pense que le nid de cendre en deviendra en tout cas certainement un. Comment. Ah, est-ce que c'est comment? Je ne sais pas. En fait, je ne sais pas comment entamer cette question. Voilà. Par rapport à notre public, on a parlé au niveau du plateau, on remet un peu d'histoire justement, on remet de la narration, on les fait finalement un petit peu rêver, mais quand même le spectacle c'est pas vital, c'est-à-dire qu'il y a un moment moins on vient et moins on y retourne, enfin les gens n'ont pas forcément cette habitude-là de venir dans les salles, c'est pas forcément quelque chose qui est évident. Du coup, comment on va faire en sorte que cette rencontre elle ait lieu? Comment on les accueille ces gens-là dans nos salles? Comment on les accueille, voilà, dans nos salles en tant qu'équipe de lieux qui accueille, mais aussi dans nos salles en tant que comédien sur le plateau? Et là, je m'adresse à vous deux, messieurs. Voilà, je ne sais pas qui veut.
Comment on accueille ou pré-accueille même carrément le spectateur?
Je vais laisser Simon répondre après, mais d'abord, on les accueille. Première étape. Ça veut dire tout simplement que on leur dit qu'on a conscience que ça va être un moment un peu unique, long. Samedi prochain, vous pouvez venir avec votre pique-nique parce que vous allez pouvoir manger ensemble après à l'entracte. Et on a une heure et quart de pause qui nous permettra de ça. Si vous voulez, nous-mêmes, on prépare au niveau du théâtre. Il y a possibilité d'acheter un sandwich, etc. Il y aura des tables
des grandes tablées installées, voilà. Donc c'est, l'accueil c'est aussi ça. Et puis mais je pense qu'il le complétera mieux que moi. Mais je pense que Simon il le prend aussi en compte. Il ne perd jamais son spectateur. Il nous rappelle où on en est de temps en temps. Parce que cette épopée, on a beau dire, avec certes il y a 15 acteurs, mais il y a bien plus de personnages, et il faut les suivre, et bien sûr que c'est pas grave. Il y a des moments, donc spectateur, bah on lâche le personnage, et puis il réapparaît, on se pose la question, mais alors où est-ce qu'on en est? Et bah, je crois que dans l'écriture, il y a des moments où, de façon très très subtile, on nous recapte. On vient nous rechercher et hop, on remonte dans le bateau.
Oui, moi je pense qu'il faut rassurer aussi un peu les gens face à cette durée. Comment dire ça? Même si c'est une création originale et donc pas du théâtre de répertoire, il y a dans la compagnie et dans la troupe et dans mon travail une véritable volonté d'un théâtre populaire. C'est souvent difficile d'utiliser ce mot-là parce qu'on l'a utilisé à toutes les sauces, mais c'est une vraie volonté. Et la volonté du théâtre populaire, c'est de se dire, c'est raconter, donc comme je disais, une histoire, ramener le théâtre à l'endroit du théâtre, qui est un endroit unique, très très particulier, qui est vraiment voilà un endroit très particulier, un endroit sans écran, un endroit où on partage des choses, le public et les spectateurs et les acteurs. Et puis après, en effet, moi j'écris vraiment la pièce pour tenir les spectateurs tout le temps. Il y a une des choses qu'on utilise beaucoup pour les tenir, c'est l'humour. C'est-à-dire que j'ai toujours mis ce que j'appelle moi les scènes poumons, des scènes où le spectateur peut respirer et rire, parce que rire ça permet de se détendre pour pouvoir après replonger dans le drame et tac se faire rattaquer. Je dis toujours ça aux comédiens, je vois cette pièce comme une sorte de grande piste de slalom. Il faut tout le temps slalomer entre les rires, les larmes, les rires, les larmes, les rires, les larmes, et avancer comme ça. Et en effet, il y a un personnage qui est un personnage de conteuse et qui suit comme un fil rouge. En plus, elle a une robe rouge absolument magnifique. Elle est absolument magnifique. Et elle accompagne par la main le spectateur dans l'histoire en lui racontant l'histoire comme nos mamans nous racontaient les histoires dans les plis des draps. Et je crois que le théâtre, c'est aussi revenir à cet endroit-là, l'histoire avant de dormir. Voilà.
Le Nid de Cendre, Simon Falguière, le cas, samedi 9 mars à partir de 17h à Évreux, au Cadran. Il y a tout ce qu'il faut pour vous installer au moment de l'entracte et pour vivre un sacré moment ensemble, en salle, en dehors de la salle. Voilà, n'hésitez plus, venez faire un tour.
Et ouais, je dis moi, ouais, tous des oiseaux. Mardi 5 mars et mercredi 6 mars à 20h à Évreux, au Cadran.
Et comme nous avons pris beaucoup de retard dans cette émission, mais on prévient, on prend le voilà. temps. On va donc couper les parties moins essentielles, à savoir celle de l'agenda. On vient de rappeler les épopées théâtrales à l'instant, on n'y revient pas. C'est l'ouverture aussi du festival Spring, oui. Les formes de cirque contemporaine qui se déroulent sur toute la région. On va pas faire le tour des dates, il y en a une quantité faramineuse, ça va se dérouler sur toute la région, pardon.
160
dates proposées sur le mois. Ça attaque sur avril un petit peu aussi, c'est un peu plus d'un mois de festival. Festival Spring, on invite tout le monde à aller sur les internets, c'est mieux pour faire le choix parmi ces 160 dates. On s'était dit qu'une fois qu'on a fait Spring, les épopées théâtrales, de toute façon on avait bouclé son mois de mars, donc peut-être qu'il n'était pas forcément nécessaire de faire un agenda pour lequel nous n'avons plus le temps. C'est ça l'idée?
C'est voilà, ça l'idée, exactement.
Voilà. Donc,
nous allons nous quitter maintenant.
On se retrouvera au mois d'avril pour d'autres aventures.
Pendant le festival des
Dalles.
Et pour se quitter, du coup, on a notre habituel petit extrait de film, la balade de Buster Scruggs. J'y sais, je te laisse.
Ce sont 5 courts-métrages réalisés par les frères Coen, exactement comme le disait Simon, c'est génial. Alors ça n'a pas été diffusé en salle, c'était une production Netflix à la base, mais avec un peu d'astuce, vous arriverez bien à retrouver quoi qu'il arrive. La balade de Buster Scruggs des frères Coen. On s'écoute la bande-annonce.
Et puis on peut les retrouver, les frères Coen, le samedi 16 mars à Évreux, avec une journée cinéma et un super ciné-concert autour de Fargo.
Exactement. Nous
16 mars, on le rajoute à l'agenda.
Voilà, nous nous avons parlé dans Plug and Play, l'autre émission en coproduction avec Le Tangramme. Ouais, le ciné-concert avec Fragments, exactement.
Et nous, on vous dit un bon mois de sortie.
Exactement.
On attrape plus de mouches avec du miel qu'avec du vinaigre. Et donc, je suis le bout en train. Je raconte une histoire. Les gens ne s'en lassent jamais parce qu'ils s'identifient eux-mêmes à ce genre d'histoire, je suppose. Et nous aimons entendre parler de nous. Tant que les personnages qu'on retrouve dans ces histoires sont nous, mais pas nous.
Celle-là sera décisive.
Je suis Buster. Buster Scruggs.
Ton sicou est chargé.
Apparemment, oui.
T'as quelque chose à dire avant que la sentence soit exécutée?
La sentence? Mais quelle sentence?
Ici, dans le Grand Ouest, la situation peut vite dégénérer.
Mon nom est Ozymandias, roi des rois.
Ce type est vraiment surprenant. Bon, il n'y a plus qu'à chercher, tu crois pas?
Ah, quel métier de malade!
Première fois.